à voix nue. Cette semaine, Joël Gaillot rencontre André Dussolier. Ce soir, l'instant et la durée. Bonsoir André Dussolier.
Bonsoir.
Nous avons hier parlé de cinéma et de cette capacité étrange, fascinante, inquiétante aussi qu'a l'acteur que vous êtes à se métamorphoser. Il y a une autre constante de votre métier, de votre art, que nous n'avons pas totalement abordée. Pourtant, elle est fondamentale, c'est la durée. Qui dit durée dit instant, dit donc éphémère, mais dit aussi inscription dans le temps, trace. C'est au théâtre, me semble-t-il, on va sans doute en discuter, qu'on est le plus conscient du moment que l'on vit. Tandis que le cinéma, lui, il grave ce temps dans le marbre, puisqu'il va conserver la trace de ce qui a été. Depuis les années 70, André Dussolier, vous avez tourné dans près de 140 films, ce qui veut dire une moyenne de 20 à 30 films accompli par décennie. Vous avez enregistré de multiples lectures pour la radio, vous avez accompagné en voix off de nombreux documentaires et joué sur les scènes de théâtre une vingtaine de pièces. Je rappelle ces chiffres, je vous l'ai dit à vous qui n'aimez pas les chiffres, parce que leur ampleur dit, au fond, une folle répétition d'instants de jeu, répétition qui donne littéralement le tournis. Lorsque vous regardez ce parcours accompli, André Dussolier, tous ses rôles, tous ces films, toutes ces pièces jouées, est-ce que vous voyez ce parcours comme une continuité ou est-ce que vous le voyez comme une succession infinie de recommencements et donc peut-être de renaissance?
J'ai envie de dire une continuité quand même parce que j'ai l'impression d'apprendre à chaque fois et que je ne cesse jamais d'apprendre, quoi. C'est-à-dire que le théâtre me donne vraiment l'impression, par exemple, très confortable et agréable de pouvoir améliorer sans arrêt. D'ailleurs, quand le premier film que j'ai tourné, c'était avec François Truffaut, j'étais au conservatoire, je n'avais jamais travaillé avec un metteur en scène de cinéma. Et quand au bout de 3 prises, Truffaut était content, j'étais tout à fait désarçonné, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas être satisfait de ça. Et alors, il me surprenait derrière le décor, en train de répéter la scène qu'on venait de tourner. Il me disait, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, mais j'essaie de voir si j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire, etc. Et il me dit, vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées.
Donc, mais pourquoi vous faisiez ça justement? La scène, elle était dans la boîte.
Ben oui, mais
elle était faite, ben oui, elle était pliée. Alors, et vous alliez la répéter derrière?
Oui, alors c'est une maladie qui m'a quitté très vite. C'est quand j'ai compris que le cinéma, c'était l'art de l'instant et puis que ça allait très vite et qu'il fallait aller vite pour faire un film. On avait 2 mois, donc on ne pouvait pas, comment dire, faire comme au théâtre, c'est-à-dire reprendre de jour en jour et améliorer de répétition en répétition une scène ou un personnage. Ça, c'est un confort. Et puis, en plus, on est à nu au théâtre, quoi. C'est-à-dire que au cinéma, on peut refaire, bien sûr, mais c'est très morcelé. Puis après, on est très dépendant du metteur en scène, de son montage. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui vous échappent au cinéma. On s'investit de la même façon qu'au théâtre, on fait son travail de la même façon, avec beaucoup de vérité, mais bon, tout ça avec la connaissance de la partition, parce qu'on fait des choses un peu dans le désordre, on tourne des choses dans le désordre, mais il n'empêche que c'est morcelé, qu'on est dépendant du metteur en scène et du montage qu'il va faire. Vraiment, au cinéma, il y a 3 films, il y a le scénario que vous lisez, qui est un premier film, il y a le scénario que vous tournez, qui est un deuxième film, et il y a le troisième film, c'est celui qui a été monté. Et il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent entre le scénario que vous avez lu et celui qui est au final monté par le metteur en scène.
Au point que vous ne reconnaissiez pas le projet original?
Heureusement que si, heureusement que si.
Quand même.
Oui, quand même, heureusement. Ouais. Mais quelquefois, j'ai eu de grandes surprises. Mais je pense il y a quand même toujours une chance, ce qui vient aussi d'ailleurs du cinéma français, où en général, celui qui écrit est celui qui réalise aussi. Donc du coup, il y a une sorte de cohérence qui fait qu'on s'y retrouve, quand on n'est pas perdu au milieu d'un film où notre personnage risque de s'évaporer ou d'être mal exploré ou mal exploité. Mais le théâtre est le seul endroit, je pense, où je peux tout d'un coup être sûr et certain de pouvoir vivre les choses du début jusqu'à la fin avec pour seul partenaire le public, quoi, et de pas avoir un même metteur en scène qui m'ennuie à ce moment-là.
Mais comment vous faites en tant que comédien, André Dussolier, avec finalement tous ces paradoxes de temporalité que vous brassez? Parce que c'est vrai, le cinéma, c'est la prise ou les 2-3 prises Et après, c'est quand même l'inscription dans la durée, puisque la caméra, elle va garder la trace de votre image et elle va la garder pour très longtemps. Le théâtre, c'est la possibilité chaque soir de revenir faire le même rôle et en même temps, c'est l'instantané. Si vous ratez l'instant, vous ratez le spectacle. Comment vous vous débrouillez de ces, voilà, de ces contradictoires temporalités, en fait? Vous êtes dans le long, dans le court, dans l'immédiat, dans la durée. C'est
Alors,
particulier.
oui, c'est particulier, mais au cinéma, on est vraiment dans un art qui se fabrique, qui se construit à partir du tournage et jusqu'à la fin. La route est plus balisée, quoi. On est plus en sécurité d'une certaine façon, même si nous, comédiens, on ne sait pas forcément comment on va ressortir à la fin, une fois que le film sera terminé. Mais quand même, au moment du travail lui-même, on est quand même. On a la possibilité de refaire une prise ou bien d'améliorer quelque chose. Au théâtre, c'est vrai que quand on se jette, il y a une phrase de Dubilla que j'aime beaucoup, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur l'absurde, enfin, et qui dit, il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. Eh bien, lui qui aimait beaucoup le théâtre, c'est un peu ça qu'on éprouve à chaque fois qu'on rentre en scène, quoi, parce que on est sans parachute et on se lance dans le vide avec quelque chose qu'on connaît bien, hein, qu'on a bien travaillé, mais quand même, la vie n'est jamais deux fois la même et une représentation ne ressemble jamais à la précédente et à celle qui va suivre, quoi. Donc, on se lance. Alors, il y a des repères, évidemment, heureusement, on a construit, mais on le vit. Qui dit vivre les choses, c'est plein d'incertitudes, d'imprévus qui peuvent se passer, autant dans la salle que sur scène. Un jour, Nils, je sais pas, dans un mouvement de colère, a pris une chaise, n'était pas prévu de la prendre, et l'a cassée en 1000 morceaux. Or, je devais m'asseoir sur cette chaise, il y avait plus que 2 pieds. Donc, il a bien fallu inventer, quoi, improviser. Donc ça, il faut s'adapter avec ce qu'on possède. Mais moi, j'adore ça, pouvoir s'adapter. Ça ne me perturbe pas. Au contraire, ça réactualise mon envie de créer, ou ça la revivifie, quoi, d'une certaine façon. Donc le théâtre, vraiment, c'est, j'adore ce saut dans l'inconnu, qui est pas tout à fait inconnu, puisque c'est quand même un texte qu'on connaît bien, qu'on a travaillé, qu'on a répété, que voilà. Mais quand même, à chaque fois, c'est la possibilité, je sais pas, comme si on pétrissait une pâte pour arriver à ce qu'elle soit je sais pas, qu'elle donne le plus beau gâteau qu'on puisse espérer réaliser pendant la représentation, à la cuisson, on allait dire, mais vulgairement. Non, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est un travail de jour en jour où j'ai l'impression de faire mon travail d'acteur. J'ai souvent regretté quand on est acteur comme ça. Je vois par exemple, à l'inverse, les danseurs ou les chanteurs qui, quand ils ne jouent pas, s'entraînent, continuent à s'entraîner, les danseurs en particulier, les chanteurs aussi. Nous, non. Une fois qu'on a fini, on a fini et on s'y retrouve sur le coup d'après, sur le film d'après, sur la pièce d'après. Et le théâtre donne l'impression de pouvoir continuer à s'entraîner, quoi. Je dis ça humblement et simplement, même si j'ai conscience d'en faire un spectacle et qu'il soit le mieux possible pour les spectateurs, parce qu'à chaque fois qu'il y a une représentation, il faut que ce soit comme pour moi, enfin comme pour le spectateur, c'est-à-dire la seule et unique représentation. Donc ça oblige à s'investir de façon totale, considérable. Impossible de faire autre chose dans la journée quand on fait du théâtre. Donc du coup, mais il y a ce saut et cet engagement, cette vie à laquelle on donne la sienne et dans laquelle on s'engage, qui est enivrante, vraiment enivrante, dont on ne ressort pas facilement d'ailleurs après, quoi. C'est vraiment, on a chauffé l'instrument au maximum, quoi. Donc du coup, on retombe, et c'est d'ailleurs le meilleur moment après la présentation, comme ça dure 1, 2 ou 3 heures, et avant de repartir le lendemain pour la nouvelle représentation. C'est quelque chose de très cruel, parce que à chaque fois, faut tout réinvestir, faut tout recommencer, et à la fois de très exaltant une fois qu'on y est parvenu à là où on voulait aller.
Mais est-ce que le plaisir, après la représentation, ce que vous racontez, André Dussollier, et qui peut ressembler à ce qu'on appelle la descente, lorsqu'on a pris une drogue, après on a ce phénomène-là de d'atterrissage dans le réel, vous vous dites, il y a un plaisir après? Est-ce que ce plaisir n'est pas là parce que vous savez que le lendemain, vous y retournez? Et donc, c'est sans fin. C'est-à-dire que vous naissez un soir et puis vous renaissez le lendemain. Et c'est là que nous arrivons à ce dont je parlais hier, l'immortalité. Vous êtes le phénix, au fond, l'acteur de théâtre et le phénix. Quand vous jouez Novecento d'Alessandro Baricco et que chaque soir, vous revenez investir les entrailles de ce paquebot comme le personnage que vous interprétez, Vous renaissez de vos cendres.
Oui, je renais, oui, peut-être.
Donc il y a une notion, il y a une certaine, quand même une certaine idée de l'immortalité qui peut se frayer un chemin chez le comédien de théâtre.
Oui,
Il
alors,
touche à l'immortalité.
oui, à travers les personnages qu'on peut jouer ou la pièce qu'on peut raconter, il y a quelque chose un peu, je sais pas, un peu hors du temps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais en tant que spectateur au théâtre, j'ai beaucoup plus de souvenirs aigus des pièces de théâtre que j'ai pu voir que des films que j'ai pu voir. Peut-être parce que le film, inconsciemment, je ne sais pas, je sais que je vais pouvoir le revoir ou le re-regarder. Le théâtre, je sais que pour un spectateur aussi, c'est une représentation unique. Et les émotions des grandes pièces de théâtre que j'ai pu voir quand j'étais étudiant, que ce soit les spectacles d'Ariane Douchkine ou de Giorgio Strehler ou de Peter Stein à l'époque, ou bien d'autres, c'était vraiment, ça reste comme des souvenirs et des émotions extrêmement fortes. Alors du coup, c'est comme un privilège. Et l'immortalité, je ne sais pas, j'ai tellement l'impression d'être au présent, sur le moment, et que je n'ai pas le droit d'être en deçà du maximum que je peux donner, que je ne vois pas très bien où elle pourrait se situer, enfin, cette sensation, parce que c'est tellement ingrat, presque, d'une certaine façon, c'est très douloureux, quoi. C'est Michel Bouquet qui dit ça aussi souvent, que c'est très douloureux, ce métier. Il a l'air d'en faire quelque chose de... Et donc, la joie que j'éprouve, elle est pendant le spectacle, peut-être bien, mais en même temps, elle est dans la maîtrise. Mais une fois que je suis arrivé au bout, je peux faire le constat, et là, tout d'un coup, je peux savourer, quoi, peut-être, si ça s'est bien passé. Si, au contraire, j'ai quelque chose qui s'est pas bien passé, j'en conserverai une douleur, mais que je pourrais réparer le lendemain. Et c'est vrai que ces 2, 3 heures qui suivent la fin de la présentation, c'est des moments qu'on partage avec soit ceux avec qui on a joué, soit avec des spectateurs qui sont venus, et encore qu'on n'a pas trop envie avec les spectateurs qui sont venus, parce qu'ils vont avoir un regard un peu de spectateur, justement, et c'est très difficile de trouver un terrain d'entente, parce qu'on sait que nous, le lendemain, on doit aller et retourner au théâtre, et c'est très difficile d'avoir un esprit critique, quoi, quand on est en train de jouer au théâtre. C'est pour ça que moi, je ne traîne pas trop dans les loges après le spectacle, parce que c'est j'aime pas trop avoir les commentaires. J'aime bien les entendre plus tard ou les lire plus tard, mais j'aime pas trop avoir les commentaires sur le moment parce que je sais que le lendemain, il faut pas qu'ils me parasitent pour la présentation du lendemain. Et il y a quelque chose de physique, de sportif, qui frôle un peu l'exploit, quoi, à chaque fois. Je dis ça pour tous les acteurs. J'ai vu récemment Nicolas Bouchot dans Un ennemi du peuple de Ibsen. J'adore cet
L'Odéon à Paris.
acteur, Odéon, oui. Et je trouve que c'est magnifique d'être investi comme ça dans un rôle. À chaque fois d'ailleurs que je le vois jouer, c'est comme ça qu'il m'apparaît, mais c'est toujours formidable de le voir investi totalement à chaque seconde, quoi, jusqu'au bout du bout. C'est ça qui est bien et qui est savoureux pour le spectateur, parce qu'on a l'impression de voir quelqu'un qui vit la vie d'un personnage, mais qui vit aussi pour lui-même sans faille, quoi, sans retenue, sans... Ça, c'est vraiment exaltant, quoi, parce qu'on a l'impression de pouvoir tout d'un coup être dans une sorte de privilège, de statut de privilégié, comme ça, de pouvoir assister à un spectacle, à des personnages qui évoluent, qui vous racontent une histoire en y étant totalement investi, en s'incarnant totalement et en étant dans l'histoire racontée par Ibsen. Enfin bon, voilà. Pareil.
Mais quand vous êtes au théâtre, André Dussollier, en tant que spectateur, est-ce que vous restez acteur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peur pour les comédiens en face en tant que comédien? Est-ce que vous vous dites, oh là là, il est en danger, là j'aurais pas fait ça, là peut-être que...
Non,
Non?
je peux pas trop. Non, au contraire, je joue avec ce qu'il me donne, ce qu'il vit. Alors je suis fatalement conscient de ce qui se passe. Hein. Si tout d'un coup il y a un éclat dans la salle ou quelqu'un qui s'évanouit, c'est arrivé, ou j'entends quelque chose qui se passe. Oui, j'y suis extrêmement sensible, mais. Ça m'est arrivé un jour, je jouais du Pinter, j'étais avec Samy Frey, et tout d'un coup, quelqu'un se dispute, enfin, des spectateurs se disputent au fond de la salle, et j'ai voulu arrêter le spectacle, on était au tout début du spectacle, j'ai voulu arrêter le spectacle parce que personne n'entendait plus ce qu'on était en train de dire en scène, et je me suis juré à partir de là que je ne le ferais plus jamais, que
Pourquoi?
le lustre du... pourrait bien me tomber sur la tête, parce que j'avais, une fois qu'on l'a repris, alors que les gens avaient applaudi, étaient contents que j'ai arrêté parce qu'on pouvait enfin repartir à zéro, eh bien, comme j'étais sorti de la fiction, l'espace d'une seconde, comme ça, eh bien, j'ai pas pu retrouver une sorte de, comment dire, de privilège de jouer un personnage sans que le spectateur puisse se dire, mais attends, c'est du lard, du cochon, il va peut-être sortir, il va peut-être nous dire un truc, c'est vrai ce qu'il dit, c'est lui ou c'est pas le personnage. Enfin voilà, il faut rester sur son territoire qui est celui du jeu et ne pas en sortir, quoi, une fois qu'on a délimité les limites du terrain, oui.
Est-ce que c'est la même chose qui se passe pour vous quand le caméraman vous dit moteur ou quand on vous dit le rideau se lève,
Oui, c'est
André
la même
Dussollier?
chose.
C'est de même nature, la
Oui.
peur est de même nature, la tension est de même nature, la concentration est de même nature?
Alors, on sait qu'on part pour un voyage un peu plus long au théâtre, hein, ça c'est sûr, et que là, ce sera un voyage où il n'y aura pas de retour en coulisses, où on ne pourra pas se poser, où on ne pourra pas aller dans sa loge comme au cinéma, où tout d'un coup, bon, ça dure, je sais pas, une scène peut durer. Je parlais de Mélo tout à l'heure, la scène durait 9 minutes et demie, donc là au moins j'avais vraiment la sensation de jouer quelque chose d'important et d'aller au bout et ça durait, mais c'est assez rare. Au cinéma en général, c'est, je sais pas, une scène peut faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes peut-être, pas plus, et donc du coup le vertige est moins grand, mais en tout cas l'engagement est le même, mais complètement le même, c'est-à-dire que, alors avec au cinéma le luxe, que tout d'un coup, je sais pas, la caméra étant là, le micro étant là, vous pouvez parler comme chez vous. Au théâtre, faut quand même être conscient que vous devez être entendu, du dernier des spectateurs qui sont là tout au fond de la salle. Mais le travail est le même. On est dans la vérité, quoi, de ce qu'on doit éprouver. Et moi, un acteur en scène qui parle avec beaucoup de vérité, je l'écouterai davantage que quelqu'un, un acteur qui a le souci d'abord de se faire entendre, mais qui n'est pas dans la vérité. Je sais pas pourquoi la vérité, même quand j'entends des acteurs japonais ou allemands dont je comprends pas un mot, ben elle me touche, elle me frappe beaucoup plus que la hauteur de la voix, quoi. Il faut que ce soit audible, évidemment, bien sûr, c'est la première des politesses d'un acteur, mais il n'empêche que c'est la vérité qui me capte.
D'ailleurs, vous faites partie d'une génération qui, au conservatoire, a été formée à ça. On vous a appris la profération des textes, on vous a appris l'articulation, on vous a appris à bien dire et à vous faire entendre, chose qui peut changer avec les époques, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même type de profération que les acteurs sortis dans les années 70 et même après dans les années 90. C'était une bonne école de ce point de vue-là. C'est une
Oui,
école qui
alors.
vous a vraiment donné la grammaire, qui vous a donné le vocabulaire et les bases.
Oui, je pense que c'est, alors c'était pas mes cours favoris, l'articulation ou bien le, mais en même temps, ça me paraît tellement aller de soi que qu'un acteur soit audible et compréhensible et que c'est un régal vraiment quand on est acteur soi-même de pouvoir savourer ou de pouvoir donner au spectateur le loisir, le plaisir de savourer tout ce qu'on dit, quoi, à la syllabe près. Je pense qu'il faut être attentif, quoi. C'est presque de la musique, quoi. Vous pouvez pas rater, ou si vous ratez une syllabe, vous ratez peut-être le mot que vous êtes en train de prononcer. Donc vous êtes conscient de ce que, et puis à travers chaque syllabe ou à travers chaque mot, c'est aussi la vie que vous faites passer. Donc c'est un élément de la vie. Et si vous pouvez pas vous permettre vous courez un grand risque quand vous êtes acteur si vous donnez pas au spectateur la possibilité de tout entendre, tout savourer, parce que là il peut décrocher très très vite. Si les mots sont capitaux, quoi, au théâtre, donc c'est vraiment l'élément essentiel qui vous fait comprendre des choses, même s'il y a aussi des silences dont je parlais aussi précédemment. Mais vraiment, en effet, c'est vrai que c'était, enfin, je sais pas si c'était une école, mais c'était un souci qu'on avait. Maintenant, peut-être que ça a un peu évolué avec l'intrusion du cinéma, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, on est moins, ou l'acteur est moins entraîné à aller au théâtre. Peut-être qu'on devrait, peut-être, je pense qu'un acteur pour bien jouer au cinéma, d'ailleurs même aussi, parce que c'est pas tellement le fait de parler fort ou d'être audible ou d'articuler les choses, mais c'est de faire bien savourer les mots qu'on prononce, parce que ou tout ce qu'on peut dire. Et c'est important aussi au cinéma. Moi, j'aime pas avoir à faire un effort, que ce soit au théâtre ou au cinéma, pour entendre ce qu'on était en train de dire, quoi. Et j'aime bien être tout à fait passif et être dans la liberté la plus absolue. Du spectateur qui fait pas d'efforts et qu'on capte, dont on capte les émotions.
On a fait allusion à la Comédie française, vous êtes resté
Ah
assez
non,
peu,
oui.
André Dussollier. Vous avez parlé rapidement d'Ariane Mouchkine. Vous êtes allé voir Ariane Mouchkine quand vous
Oui.
démarriez pour éventuellement peut-être intégrer la troupe du Théâtre du
Oui.
Soleil. Ça ne s'est pas fait, je crois que vous n'en avez pas gardé de regret. Vous avez parlé de Roger Planchon. En même temps, la vie de troupe du théâtre n'a pas été ce qui a constitué l'ossature de votre carrière.
Non. Alors c'est vrai que là il y a plusieurs schémas. La Comédie française, c'est vrai, c'est une troupe, mais en même temps il y a plusieurs petites troupes à l'intérieur de cette troupe, plusieurs groupes, on va dire. Mais moi j'y suis resté trop peu de temps pour avoir vécu. Mais par contre c'est un répertoire et c'est une faculté qu'ont les acteurs de pouvoir jouer des rôles tout à fait différents. Enfin vraiment c'est magnifique cet endroit de la Comédie française. On peut vraiment passer d'un répertoire à l'autre, de la modernité la plus grande jusqu'à avec les metteurs en scène aussi qui sont introduits aujourd'hui, je pense à Ostermayer ou d'autres, enfin bon, c'est vraiment un lieu magnifique. Et voilà, mais sinon, la troupe, c'est vrai, ça m'a toujours tenté. Je suis allé voir Ariane Nouchkine parce que j'étais séduit par les spectacles qu'elle faisait, mais en même temps, elle disait, attention, moi, c'est un travail vraiment de troupe, et il n'y a pas d'acteur, on en connaît maintenant, Cobert ou d'autres, ou Léotard, que j'avais rencontré aussi, qui sont passés chez elle et qui ont eu des rôles marquants, mais c'est pas, on n'entre pas chez Ariane Nouchkine au Théâtre du Soleil pour espérer être, c'est ce qu'elle m'avait dit d'ailleurs, pour être, je sais pas, le Gérard Philippe de son temps, quoi. C'était l'époque Villars-Gérard Philippe, ça n'était pas c'était pas son schéma, quoi. C'était pas, elle l'a prouvé, elle le prouve. J'étais plutôt naïf et candide quand je suis allé la voir, mais j'étais plutôt un amoureux de ce spectacle et donc je voulais voir un peu, j'avais envie de la côtoyer et de voir s'il y avait un moyen de travailler ensemble, mais c'était pas vraiment sa conception. Il fallait être là du début jusqu'à la fin d'un spectacle, y compris pour la vie de troupe, quoi, la plus concrète qui soit, et puis le spectacle lui-même, et puis après le spectacle, enfin on sait comment ça fonctionne, le Théâtre du Soleil, donc du coup voilà. Mais le travail avec les autres, j'y ai trouvé mon compte, et y compris dans les spectacles, que ce soit avec Planchon, que ce soit avec d'autres metteurs en scène. Voilà.
Mais pourtant, depuis quelque temps, vous êtes plutôt tout seul en scène.
Oui, c'est vrai.
Quand je dis depuis
C'est
quelque
vrai.
temps, ça fait quand même un petit moment. Ça a
C'est
démarré
vrai.
avec Sacré Monstre,
Oui.
Monstre Sacré, et là, je parle de Milan.
Oui.
Après, il y a eu un texte à partir des écrits de Paul Fournel, un
Les
seul en
athlètes, oui.
scène, comme on dit aujourd'hui,
Oui.
sur ce qui se
Les
passe dans
athlètes dans
la,
leur tête,
voilà, ce qui se
oui.
passe dans la tête des athlètes. Et puis, évidemment, Alessandro Baricco et ce Novecento que vous promenez et que vous reprenez, hein, de scène en scène, pas forcément à Paris d'ailleurs.
Oui. Voilà, j'ai fait le tour là.
Ça
On
y
a joué
est,
372
donc il y en
fois,
aura peut-être
j'arrête.
un autre après. Donc là,
Non.
vous avez basculé au théâtre du côté, effectivement, plutôt du seul en scène, sans
Oui, mais c'est
partenaire.
pas. En fait, c'était peut-être parce que je suis tombé sur des textes. En l'occurrence, Fournel, par exemple, Les athlètes dans leur tête. J'aime beaucoup le sport et c'était la possibilité vraiment de faire entendre la voix des sportifs, parce qu'ils connaissent bien ce monde-là, et de les faire entendre vraiment dans leurs réactions les plus intimes, à l'inverse de ce qu'on peut entendre dans leur bouche quand ils sont interviewés à la télévision. Donc ça, c'était vraiment à la fois pour vivre ce texte-là et raconter et parler du sport.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une sorte de
Ouais.
jouissance absolue à
Ouais.
justement tout seul sur le plateau,
Ouais.
à la fois dompter son public, l'apprivoiser, le séduire, l'emballer,
C'est
et
vrai.
ne le devoir qu'à soi-même, au
C'est vrai.
fond,
Non,
André
il
Dussollier.
C'est vrai, il y a une plus grande liberté
Oui.
que j'avais l'impression de pouvoir acquérir comme ça en créant le spectacle d'ailleurs du début jusqu'à la fin. En l'occurrence pour Novecento par exemple, parce que j'y ai introduit la musique alors que Baricco n'y pensait pas du tout. Et même il m'a déconseillé, il m'a pas interdit, mais il m'a déconseillé de représenter la musique avec un quatuor de musiciens de jazz qui étaient là à certains moments de la pièce, non pas comme une musique d'accompagnement, mais comme une musique qui est vraiment comme un personnage et qui prolonge l'émotion du récit par les notes de musique. Des morceaux d'ailleurs choisis et qui correspondaient à l'époque de l'histoire. Donc là, c'était vraiment une manière de concevoir, c'est une liberté quoi, que j'ai l'impression de pouvoir profiter quand je fais un spectacle comme ça où je suis tout seul. Maintenant, j'aimerais bien avoir, j'aime bien jouer avec les autres et je pense à des spectacles où je vais jouer avec des autres. Donc c'était un passage, on va dire, qui a duré quand même à travers des spectacles différents, mais c'était des circonstances. Il y avait le sport d'un côté, puis Baricco avec l'alliage des mots et de la musique.
C'est quoi le rythme propre, le rythme interne, le rythme organique du comédien sur scène? André Dussolier, vous parliez tout à l'heure de diplomatie avec Neil Sarastrup. J'imagine quand on est face à un acteur comme Neil Sarastrup ou avec Nicole Garcia dans un texte de Bergman, qu'il y a un échange organique entre les comédiens sur les plateaux. Il y a quelque chose que nous ne savons pas, nous le public, qui ne se dit pas, mais qui est de l'ordre du partage très physique aussi, même si vous ne vous touchez pas, d'acteur à acteur. Quelle est votre horloge interne, biologique, quand vous êtes sur le plateau? Est-ce que vous avez l'impression que les compteurs s'affolent, que ça se met à aller très très vite, ou au contraire que ça se ralentit, que vous avez la main là-dessus? Que votre cœur bat plus vite, que...
Non, c'est ben justement l'autre
votre
est là.
Votre biologie.
L'autre est là. Et il n'y a pas seulement que l'autre. Il y a plein d'événements inattendus qui peuvent se produire pendant une représentation et il faut composer avec ça. Enfin, faut vivre avec ça. C'est la vie, quoi. La vie vous offre des tas de choses avec lesquelles vous devez vous débrouiller. C'est là qu'un acteur prouve un peu, peut-être à la fois le fond du travail qu'il a pu faire et puis de sa capacité de s'adapter à ce qui se présente. J'aime bien, d'un soir à l'autre d'ailleurs, c'est jamais la même chose, on est dans des humeurs différentes, et on le perçoit, quoi. On voit bien comment est le partenaire ou qu'est-ce qu'il vous envoie, on est conscient de ce qui se passe et on est conscient de ce qu'il peut y avoir aussi dans la salle, de ce qui peut se produire, mais en même temps faut suivre sa ligne. Moi, ce qui m'obsède, moi j'étais un jour avec un acteur, c'était sur une pièce absurde comme ça, et donc j'étais très soucieux de que les spectateurs comprennent l'histoire, d'abord essentiellement, parce que qui dit absurde dit des choses un petit peu éclatées, un peu bizarres, un peu loufoques. Et donc, j'avais le souci que l'histoire soit bien perceptible. Donc, c'est toujours un peu frustrant quand on est obligé de jouer, de pas tout à fait librement, c'est-à-dire de se dire ah là on est en train de décaler, de perdre un peu le public qui va pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Ah voilà, il y a un réflexe qui est celui de me mettre à la place enfin ma première mission c'est de faire entendre l'auteur, quoi, tel qu'il a écrit et l'esprit de l'auteur. Et puis après si j'ai cette mission-là est remplie, c'est de pouvoir vivre librement le personnage. Ah, il faut vaut mieux que les deux soient liés, et puis on travaille pour ça. Et donc, il faut travailler avec des gens avec qui on partage la même envie, où on a le même cap à atteindre. Donc, c'est important de bien s'entendre avec ses partenaires et de bien savoir où on va et si on a vraiment envie d'y aller ensemble. C'est important, quoi. C'est vrai. Ça compte. Alors, peut-être que en vivant les choses tout seul, comme ça, je me suis dit, au moins, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même si ça fonctionne pas comme je veux. Mais en même temps, je peux pas me passer de l'autre. Et donc, je pense à des spectacles là où je vais jouer avec d'autres.
Ah! Très bien. Eh bien, justement, l'autre va être l'objet de notre rendez-vous de demain, puisque nous parlerons de scènes de vie collective, nous parlerons d'Alain René ensemble, et de certains, effectivement, de ces comédiens avec qui vous vous êtes retrouvés.
Pas
Merci
entier.
Beaucoup et à demain.
À demain.
André Dussolier.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec André Dussolier. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Thibaut Nassin-Ben. Cette émission se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.